Bonsoir à tous, vous écoutez Radio Campus Paris sur le 93.9. Il est 20h31, c'est l'heure d'Alasso, votre émission hebdomadaire sur les initiatives solidaires, les énergies associatives et les hardiesses estudiantines. Que faire quand on est victime d'un accident de la vie? Quels sont les recours accessibles pour les victimes? Quels sont leurs droits? Autant de réponses inconnues du grand public et qui placent souvent les victimes d'accidents dans des situations de faiblesse extrêmes. Nous recevons donc ce soir l'ANAMEVA, l'Association nationale des médecins conseils de victimes d'accidents avec dommages corporels, en la personne de son président, M. Dr Dreyfus. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Et le Dr Michel Nodacher. Bonsoir.
Bonsoir.
Au sommaire de cette émission, nous retrouvons aussi le bloc-notes de Julia. Bonsoir Julia.
Bonsoir.
Et Sylvain à la réalisation. Merci à tous d'être là. Nous commençons tout de suite avec l'histoire de la création de l'ANAMEVA. C'était en 1985. Pouvez-vous, docteur Dreyfus, nous raconter quels étaient les manques dans le recours possible? Pourquoi avez-vous créé cette association?
J'ai été amené par un biais assez particulier à défendre les victimes de guerre qui avaient été la victime ou de blessures de guerre ou qui avaient été déportées ou internées ou victimes civiles de guerre et qui n'avaient personne pour les présenter auprès du centre de réforme pour obtenir une pension militaire. De là, certaines personnes avaient des accidents de travail, je suis allé les défendre, puis des gens avaient des accidents de voiture par exemple, ou victimes d'attentats par exemple, ou de coups et blessures dans la rue, et j'ai créé cette association pour que ces gens sachent exactement quels étaient leurs droits et leurs devoirs pour obtenir l'indemnisation que tous ces dossiers justifient.
Et sans l'existence de l'ANAMEVA, que se passerait-il ou que se passe-t-il pour les gens qui ne connaissent pas votre association? Quelqu'un qui a un accident, qui ne connaît pas ses droits, que se passe-t-il? Quels sont les pires scénarios possibles?
Eh bien, nous le voyons tous les jours, malheureusement. La loi française précise que toute expertise doit être contradictoire, c'est-à-dire qu'il y a des gens à armes égales qui discutent les séquelles qui méritent indemnisation. Or, actuellement en France, 90% des dossiers sont jugés directement par le médecin de la compagnie d'assurance du responsable de l'accident, et les blessés sont tout seuls face à ce médecin, sans savoir quels sont leurs droits et comment faire défendre tous leurs droits. Donc, nous avons pensé qu'il serait bon qu'il y ait aussi, pour faire contrepoids, des médecins conseils spécialisés pour défendre les victimes. Et nous avons donc, dans ces conditions, créé d'une part cette association nationale, puis un enseignement à la faculté de médecine Paris 5 sur le médecin conseil de blessés, puis une charte de déontologie du médecin conseil de blessés que nous avons présentée à l'Ordre des médecins. Et nous sommes actuellement reconnus officiellement et quand on demande une expertise contradictoire, elle est toujours acceptée par les compagnies d'assurance, ce qui est éminemment important. Nous voyons malheureusement trop souvent des gens qui viennent nous voir trop tard. Vous tous qui pouvez être demain la victime d'un accident ridicule, une chute dans un escalier, quelqu'un qui vous pousse, un pot de fleurs qui tombe, un accident de voiture, en traversant au clou, vous pouvez être renversé par une voiture. Vous ne savez pas du tout comment procéder. Nous sommes là donc pour vous aider, pour vous conseiller et vous assister tout au long de ces opérations jusqu'au règlement final.
Docteur Nodacher, vous êtes médecin généraliste et vous avez suivi une formation pour être médecin conseil de victimes. Vous pouvez nous raconter votre parcours et votre formation jusqu'à aujourd'hui?
Oui, donc je suis médecin généraliste installé depuis bientôt 20 ans à Paris. Et tout au long de ma pratique de médecin généraliste, j'ai été confronté à différents patients qui avaient été eux-mêmes victimes d'accidents et qui me demandaient des conseils, soit en cours de procédure d'indemnisation, soit une fois que l'indemnisation avait été réalisée, me demandaient ce que j'en pensais. Et très souvent, j'avais une vue pas du tout professionnelle qui me faisait leur dire que je ne savais pas et qu'en tout état de cause, les indemnisations qu'ils me présentaient me paraissaient ridiculement loin de ce que j'avais pu imaginer, mais sans avoir du tout les armes ou la technique pour les aider. Donc je me suis intéressé de plus près après un cas assez marquant et je me suis rapproché à ce moment-là de la faculté où j'ai découvert l'enseignement de Paris 5 que j'ai suivi il y a maintenant 4 et 5 ans. Et à la suite de cet enseignement et de diplôme que j'ai obtenu, j'ai eu la chance de me lancer assez rapidement grâce à par relation, un cabinet d'avocats spécialisés, parce que c'est important, je pense, de travailler avec des avocats spécialisés qui connaissent bien cette procédure tout à fait particulière. Et de fil en aiguille, je suis arrivé à me rapprocher de l'ANAMEVA pour suivre son enseignement aussi, pour être accompagné dans ma pratique. Et c'est ainsi que je me suis intéressé de plus en plus, ça représente maintenant à peu près un quart de mon activité, dans la défense des personnes qui sont victimes d'accidents, d'erreurs médicales et de tous les accidents de la vie en général.
Donc vous savez qu'Alasso est une émission sur les associations. Quel est, par exemple, pour un médecin généraliste, l'intérêt d'être rattaché à l'ANAMEVA et quels sont les inconvénients de ne pas l'être? pas qui veut répondre.
Alors, moi, je peux répondre sur l'intérêt. L'intérêt, déjà, c'est d'avoir un label de qualité, comme le docteur Dreyfus vous l'a exprimé. L'association a été reconnue par l'Ordre des médecins et une charte de déontologie. Et l'association est un interlocuteur tout à fait reconnu aussi par non pas nos adversaires, mais nos contradicteurs, que sont les compagnies d'assurance. Donc, quand un médecin labellisé Anameva est dans un dossier, tout de suite, on a une reconnaissance de fait qui nous permet d'être théoriquement à armes égales dans la contradiction confraternelle, mais la contradiction quand même avec nos confrères médecins conseils de compagnies d'assurance. Deuxième avantage de l'Anameva, bon, déjà, il y a le côté confraternel qui permet de se retrouver et de partager entre nous toutes nos expériences, qui est toujours très enrichissant. Et troisième point important, c'est qu'on a un système de formation continue avec des séminaires, avec des réunions deux fois par an en moyenne, plus des réunions locales qui nous permettent de progresser dans cette spécialité très, très technique et qui évolue très rapidement au gré des évolutions du droit et de la jurisprudence française.
Monsieur le Président de l'association ?
Je considère que le fait de parler au nom d'une association donne un pouvoir qu'une personne toute seule n'a pas. Quand nous avons créé l'association il y a 20 ans, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous étions trois. Trois pauvres paumés qui avaient la vocation de défendre des victimes totalement démunies face à des pouvoirs énormes des compagnies d'assurance. Le maître Moore, qui est le directeur de la Gazette du Palais, a expliqué qu'il s'agissait d'un marché captif, c'est-à-dire qui était captif entre les mains des assurances, qui gérait tout, qui faisait les barèmes, qui faisait les expertises, qui jugeait les personnes, qui donnait les indemnisations, sans qu'il y ait aucun contre-pouvoir. Or, comme je vous le disais tout à l'heure, le rôle contradictoire, qui est la base du droit français, oblige qu'il y ait de l'autre côté, dans le plateau de la balance, quelqu'un de même valeur qui puisse défendre les victimes. Or, quand nous avons été groupés, nous avons pu parler au nom de l'association et de ce fait obtenir tout ce que nous avons obtenu, qui dépasse largement tout ce que j'aurais osé espérer il y a 20 ans quand j'ai créé l'association. Tout ce que j'ai obtenu maintenant dépasse largement mes rêves les plus fous. Et c'est étonnant, c'est que actuellement, quel que soit le gouvernement en place, toujours, il y a eu le désir d'une protection des victimes de plus en plus prononcée. Et encore actuellement, tout dernièrement, une nouvelle loi du 31 décembre 2006 vient d'apporter de nouveaux droits qui va nous obliger à refaire le livre dont nous parlerons tout à l'heure, qui est obsolète, et le docteur Naudacher va se charger justement de mettre ce livre à jour, car il y a des progrès nouveaux, nous sommes à la base de ces progrès, il y a eu des commissions à la chancellerie, c'est-à-dire au ministère de la Justice, j'ai été entendu et j'étais très satisfait de voir que les demandes que j'avais faites ont presque toutes été acceptées.
On va parler après des cas pratiques et des expériences que vous avez connues auprès des victimes que vous conseillez, juste après Grisby, Army of Me sur Radio Campus Paris. Nous recevons ce soir l'Anameva dans À l'assaut avec le docteur Naudacher et le docteur Dreyfus. Nous parlions avant la pause musicale des compagnies d'assurance. Est-ce que vous pouvez préciser pour nos auditeurs quel est exactement le rôle des médecins des compagnies d'assurance contre lesquelles vous travaillez ? Docteur Dreyfus.
Le rôle est assez précis. Les compagnies doivent indemniser le dommage, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que tout le dommage causé par un accident, quel qu'il soit, doit être réparé par celui qui en est à l'origine. Nous avons tous, pour nous défendre, nous protéger, des assurances pour notre voiture, notre vélo, les accidents de la vie, des assurances personnelles qui sont faites pour nous garantir, si on cause un accident par mégarde, que la compagnie d'assurance pourra indemniser la victime. Les compagnies d'assurance sont des organismes financiers. Elles doivent faire des bénéfices, elles sont gérées comme des entreprises commerciales, et donc leur but, c'est évidemment de payer ce qu'elles doivent, mais le moins possible de ce qu'elles doivent. Et encore là, je suis modeste. Nous, notre rôle, c'est, comme la loi française dit, tout le dommage doit être pris en charge, c'est que l'on n'oublie aucun dommage et que, lors d'une expertise, toute la gêne fonctionnelle ou autre d'une victime soit prise en charge. Donc, nous luttons contre des médecins de compagnie qui sont briefés pour rétrécir un peu la facture et nous sommes là pour la faire mousser le plus possible.
Il me semble que votre adage, c'est rien que le dommage, mais tout le dommage. Si je suis ce que vous dites, ça veut dire qu'il y a donc des médecins qui ont donc la même déontologie que vous, qui sont assujettis à une compagnie d'assurance, à une logique financière.
C'est toujours extrêmement difficile à dire, car jamais personne dira « je ne suis pas libre et je suis dépendant ». Mais je l'ai plaidé contre tout le monde, je l'ai plaidé à l'Assemblée nationale, je l'ai plaidé au Sénat, nous sommes toujours dépendants de celui qui nous paye. Je connais personne qui n'est pas dépendant de celui qui le règle.
Donc ce serait valable pour un hôpital, pour tout ce qui n'est pas privé.
Donc, quand vous avez une compagnie d'assurance qui vous envoie, mettons, un tiers de votre revenu annuel, et qui vous dit, à partir de maintenant, vous donnez tant pour ça, vous n'indemnisez pas les souffrances, on dit n'importe quoi, n'est-ce pas ? Vous êtes forcé de suivre, car si vous ne suivez pas, vous n'aurez plus de dossier, comme par hasard, sans qu'il y ait de pressions officielles. Les pressions sont officieuses, et donc il n'y a pas de liberté. Or, nous avons voulu que nos médecins de l'ANAMEVA soient totalement indépendants de ce qu'on appelle les organismes indemnisateurs, c'est dans nos statuts, et nous sommes librement choisis par les victimes. Donc nous sommes toujours du côté du blessé pour lui faire obtenir le maximum de son indemnisation possible.
Mais c'est légal cette entente officieuse entre les compagnies d'assurance et les médecins
Qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal?
Est-ce qu'on peut envisager un recours ou...
C'est extrêmement difficile. Il y a une loi. J'explique souvent aux gens, la loi, il y a un mur, puis il y a des portes. Si vous voulez rentrer dans le mur, même si vous avez raison, vous ne passerez pas. Il y a des portes, suffit d'employer la porte. Or, il y a des gens qui connaissent les portes, qui connaissent les petites fenêtres, les chausse-trappes, qui connaissent tous ces petits trucs, n'est-ce pas ? Et pourquoi pas vous adresser à ces gens-là, comme vous adressez à un conseiller fiscal ou à n'importe quel conseiller qui est un spécialiste pour l'achat d'une voiture, pour l'achat d'un immeuble, pour n'importe quoi, vous demandez à un spécialiste de vous conseiller. Et bien là, c'est la même chose. Il y a des gens dont le métier est de vous conseiller pour vous expliquer exactement ce que vous devez faire et de vous accompagner au cours de toutes ces démarches. C'est l'idéal. Encore faut-il savoir qu'il y a des gens comme ça, et c'est là le gros problème.
On a compris, vous êtes des gens du métier, vous avez créé cette association il y a 20 ans. Ce serait dommage de ne pas consacrer du temps à vos expériences personnelles en tant que médecin conseil pour que les auditeurs voient vraiment en quoi consiste votre activité, comment se constitue un dossier, quels sont les cas que vous avez défendus et qui n'auraient pu l'être sans vous. Est-ce que vous avez un exemple marquant qui fait que vous êtes aujourd'hui, on ne va pas dire fier, mais que vous dites que si vous n'aviez effectué ce métier, il y a peut-être des gens qui auraient été gravement lésés. Docteur Nodacher.
Moi, j'ai deux exemples marquants. Le premier, c'est celui qui m'a poussé à me spécialiser, à exercer de cette partie de la médecine. C'est le cas de l'un de mes patients dont j'étais le médecin traitant à l'époque, qui était hémiplégique pour des raisons médicales, qui avait eu un accident vasculaire cérébral et qui avait récupéré un minimum d'autonomie tout en étant hémiplégique. Et un jour, se promenant dans la rue, sur un passage clouté, a été percuté par une voiture qui lui a fracturé le bon côté, celui qui lui permettait de marcher tant soit peu avec ses béquilles. Donc il a été opéré, réopéré, sous des suites médicales et chirurgicales un petit peu compliquées qui ont fait qu'il est resté pendant un an totalement invalide chez lui dans un lit avec des soins que sa chère et tendre épouse lui prodiguait, mais totalement invalide pendant un an. Il a été donc vu, comme c'est prévu par la loi, par les médecins conseils de la compagnie d'assurance qui ont évalué les différents postes de préjudice et évalué son dommage. Et moi j'ai suivi ça d'un œil peu attentif parce que c'était pas du tout ma spécialité ni mon centre d'intérêt à l'époque. Et à la fin, il est venu me voir en me demandant « qu'est-ce que vous en pensez ?» après plus d'un an, un an et demi de cheminement douloureux. Et l'indemnisation, à l'époque, c'était en France, se montait, je crois, de l'ordre de 70 000 francs.
À vie, par an
quoi. C'était ce que lui allouait, tout compris, pour toutes les souffrances, les immobilisations, les séquelles que ça engendrait, parce qu'il en est resté une cheville totalement soudée, c'est-à-dire lui permettant de marcher, mais beaucoup plus difficilement qu'avant, avec son côté déjà paralysé. Donc 70 000 francs. Et je lui dis, écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, ça me semble ridiculement loin de ce que je pouvais penser après un tel traumatisme, de telle souffrance.
Et vous n'y connaissez rien à l'époque.
Et je n'y connaissais rien à l'époque. Je lui donnais un seul conseil, je lui dis, il faut que vous voyiez un avocat spécialisé, vous voyez quelqu'un de spécialisé. Et effectivement, il a vu un avocat spécialisé qui l'a fait voir par un médecin spécialisé, qui j'ai appris par la suite était un médecin de l'ANAMEVA d'ailleurs, c'était un chirurgien orthopédiste, médecin, un conseil de l'ANAMEVA. Tout le dossier a été repris à ce moment-là, non pas sur le mode amiable, mais sur le mode contentieux, donc il y a eu une procédure, et il a obtenu à la fin de tout ça une indemnisation de plus de 400 000 francs. Ce qui était, à mon sens, plus à la hauteur de tout ce qu'il avait subi. Donc c'était un exemple pour moi qui était totalement criant. Exemple aussi, mais qui là est beaucoup plus récent, c'est un dossier dont je vais m'occuper, qui est le cas d'une petite jeune fille qui, à l'âge de 11 ans, a été percutée là aussi, la malheureuse, sur un passage clouté par une automobiliste qui roulait trop vite, et elle a eu un grave traumatisme crânien. qui dans l'immédiat n'a pas eu de conséquences bien visibles, puisque neurologiquement elle n'avait rien, mais sur le plan psychologique et sur le plan intellectuel, malheureusement, il y a eu des conséquences dramatiques qui font, pour résumer, qu'à l'âge de 20 ans, quand moi je l'ai vue en bout de course d'un dossier qui avait beaucoup traîné, elle avait gardé et le psychisme et l'intellect d'une petite fille de 11 ans. Donc imaginez ce que ça peut représenter comme séquelles et comme douleur pour sa famille. L'indemnisation avait été très longue et très conflictuelle avec différentes expertises judiciaires et l'avocat conseil me demandait mon avis sur la globalité du dossier, voir si rien n'avait été oublié. Et il m'est apparu évident qu'il y avait un poste très important qui avait été oublié, c'était le poste de ce qu'on appelle la tierce personne. Tierce personne, c'est la personne qui est là pour suppléer dans la vie quotidienne un certain nombre d'heures par jour à tout ce que vous ne pouvez pas faire seul.
Et qui ne s'appelle pas une maman, un papa ou une
Exactement, une tierce personne, le poste qu'on appelle tierce personne ne doit absolument pas tenir compte des aides que vous avez par votre famille, par vos parents, qui sont malheureusement destinés, non seulement pas là pour ça, mais destinés à disparaître vu la différence d'âge. Et par ce qu'on appelle un DIR, c'est-à-dire un document écrit que j'ai fait après avoir assisté à deux expertises judiciaires faites par des médecins, où j'étais confronté à des médecins de compagnie d'assurance qui étaient l'un neurologue et l'autre psychiatre. On n'a pas réussi à s'entendre de façon évidente et l'expert judiciaire avait rendu un rapport qui était un petit peu ambigu. J'ai fait un dire très argumenté qui a permis de lui faire gagner 11 heures par semaine de tierce personne supplémentaire. Et quand j'ai fait le calcul, 11 heures par semaine jusqu'à la fin de sa vie, avec une espérance de vie théorique pour une jeune fille de 82 ans et on se référait à l'âge de l'accident 11 ans, ça faisait à peu près 400 000 euros de bonus dans son indemnisation. Et ces 400 000 euros, c'est pas la loterie, c'est pas pour ses plaisirs immédiats, c'est pour assurer jusqu'à la fin de sa vie un entourage bienveillant pour qu'elle puisse vivre dans des conditions de dignité et de sécurité les plus conformes à ce qu'aurait pu être sa vie si elle n'avait pas été accidentée. Et j'ai reçu, ça m'a beaucoup touché, de cette petite jeune fille, un petit dessin que je garde précieusement, où elle me remerciait avec des mots très simples d'une enfant de 11 ans, mais c'était une jeune fille de 20 ans. Voilà les deux exemples, deux extrêmes de mon activité.
Excusez-moi cette question très triviale, mais est-ce que tout s'indemnise, est-ce que tout a un prix? Vous devez être confronté à cette question tous les jours, il y a des grilles, des barèmes. Comment est-ce que vous pouvez, en tant que médecin, quand vous indemnisez le second cas par exemple dont vous avez parlé, donner le prix, la valeur d'un cerveau qui n'aura pas grandi, le prix d'un handicap à vie, le prix d'une tierce personne?
Alors,
comment
nous,
ça fonctionne?
Nous médecins n'indemnisons pas en termes de prix, c'est-à-dire en termes financiers, nous indemnisons en termes de barèmes avec des pourcentages qui sont soit des pourcentages, soit avec une graduation d'une échelle de 0 à 7, donc on donne sur on barémise, ce qui est toujours aussi un problème très délicat à manier, mais en aucun cas on indemnise en termes financiers. Ça, c'est le problème qui est réglé par la suite par les règleurs de compagnie d'assurance, par les avocats conseils des victimes ou par les tribunaux. Nous, on donne une évaluation, ce qu'on appelle médico-légale, avec des échelles, et ça c'est un gros problème, c'est d'avoir une uniformité et un consensus sur les barèmes. Donc on a des références, on a des guides. Je crois que le docteur Dreyfus, dans son expérience, pourra vous en dire beaucoup plus.
Est-ce que c'est rationnel, vous semblez, d'écrire un barème, ce qui est plus mathématique, mais en même temps, c'est des cas toujours différents, toujours douloureux? Comment on...
J'ai écrit « Jamais un barème ne remplacera l'intelligence de l'homme ». Oui. Chaque cas est unique et nous devons donc nous référer à ce cas unique pour mieux le défendre. J'aimerais vous raconter deux petites histoires, si vous me permettez. J'ai été nommé expert pour une petite fille qui, à l'âge de 4 ans, a été mordue par un pitbull en plein visage. Elle était totalement défigurée, la joue arrachée, le nez arraché, l'œil qui pendait, effroyable. Les dents étaient à vif, et cette petite fille, on ne pouvait pas lui faire de chirurgie plastique avant qu'elle ait fini de grandir. Donc, elle a fait, je crois, 18 ou 19 opérations de chirurgie plastique à partir de l'âge de 14 ans. Entre 4 ans et 14 ans, cette petite fille était... Tout le monde se moquait d'elle à l'école, elle n'osait plus sortir dans la rue, elle était repliée au coin de la cheminée dans le noir, elle ne voulait voir personne, elle ne voulait pas travailler, c'était le drame absolu. Et les parents n'y pouvaient rien, elle était vraiment hideuse. Et dans notre technologie à l'époque, notre technique, on indemnisait que les préjudices esthétiques définitifs. Donc c'était omis, on ne lui donnait rien pour ça. Et j'ai plaidé dernièrement à la commission d'Intillac, qui vient d'avoir lieu, ce préjudice esthétique temporaire, et il vient d'être reconnu officiellement le 31 décembre par la loi, et ça me fait un plaisir immense, car ça me semble évident qu'on a le droit à une indemnisation. Alors vous me direz, c'est pas des euros qui vont compenser. Qu'est-ce que vous voulez compenser autrement? Si quelqu'un vous écrase votre enfant, vous toucherez des euros, malheureusement. Et combien vaut un enfant? C'est jamais... Je ne connais aucune victime qui ne me disent pas « gardez votre argent et rendez-moi comme j'étais avant ». L'accident n'est jamais une affaire. Deuxième anecdote, si j'ai encore une minute. On essaie d'indemniser tous les préjudices. Et les compagnies d'assurance ne prenaient que les plus importants. Ils omettaient la tierce personne et des choses importantes. Il y a un préjudice, il y a 25 ans, que l'on omettait, c'est le préjudice sexuel. Si, pour une raison quelconque, vous avez un accident qui vous mutile gravement et vous ne pouvez plus avoir d'organes de procréation, il y a une gêne certaine. Cependant, ce n'est pas une gêne fonctionnelle, ça ne vous empêche pas de travailler, même si vous n'avez plus rien là. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bien. Or, ce n'était pas reconnu. Les compagnies d'assurance ont fait un congrès à Nice, car on avait lancé l'idée d'indemniser le préjudice sexuel. Et tous les médecins de compagnie consensus disaient « mais c'est ridicule, c'est monstrueux, imaginez-vous, qu'est-ce qu'on ne va pas encore indemniser? Maintenant, un gars qui ne baisse pas, on va l'indemniser ?» Enfin, c'était épouvantable, vous voyez. Or, j'étais tout seul dans la salle, le seul contre, comme toujours, et le docteur Rousseau, qui présidait, expliquait à tout le monde « rendez-vous compte, comment on va ? Prenez un moine, il sort dans la rue, il se fait écraser et il a uniquement ça. » On ne va pas l'indemniser pour un préjudice sexuel, puisque quand même, ça semble ridicule. Alors c'est là que j'ai demandé le micro, et j'ai dit, écoutez, monsieur Rousseau, le moine en question, je lui obtiendrai le double de ce que vous donnez à quelqu'un d'autre. Alors, vous réveillez la curiosité de tout le monde. Je dis, imaginez-vous que ce moine, pour gagner son paradis, il est forcé de résister à sa pulsion sexuelle. S'il n'a plus aucun désir, il n'a aucun mérite, il ne va plus au ciel. Tout le monde a rigolé dans la salle, et mais depuis, le préjudice sexuel est officiellement reconnu partout, toujours, tout le temps.
C'est pas une anecdote, c'est réel.
Ah oui, c'est réel, absolument.
C'était un très bon argument.
C'est réel. Non, mais c'est amusant, il faut y penser tout de suite, il faut que ça vienne immédiatement.
Préjudice sexuel, c'est aussi valable pour l'accouchement, c'est-à-dire qu'une femme qui devra accoucher par césarienne.
Il y a un préjudice obstétrical pour les femmes qui ne pourraient pas accoucher normalement, qui auraient besoin d'une césarienne. Alors évidemment, on peut difficilement indemniser un préjudice à venir. On indemnise que le préjudice déjà subi. Mais si on a un rétrécissement du détroit, c'est-à-dire un bassin, on peut affirmer qu'il ne pourra pas y avoir d'accouchements normaux. Nous n'avons pas à dire ça vaut deux sous. Nous disons simplement ceci, et le magistrat, lui, indemnisera, puisque c'est lui qui dit la somme, à la somme qu'il désira, selon que la personne a déjà des enfants, n'en a pas encore, etc. Vous voyez ?
Et est-ce que, par exemple, dans la tierce personne, on comprend la suite des soins psychologiques qui vont être nécessaires à une personne qui a été défigurée de 4 à 14 ans, à une femme qui a été renversée? Est-ce que c'est...
Alors, tierce personne, à proprement parler, non. On peut obtenir la prise en charge sur une durée prévisible d'un soutien, d'une psychothérapie, de soins spécialisés dans les mains d'un psychiatre ou d'un psychologue. On peut ce qu'on appelle les soins futurs ou les frais futurs. Les frais futurs, c'est plutôt tout ce qui est matériel. Les soins futurs, c'est la prise en charge médicale de la situation telle qu'elle est au jour de la consolidation de l'indemnisation. Mais on peut médicalement dire, on prévoit qu'il faudra pendant tant de mois ou tant d'années un suivi dans l'intérêt de la situation telle qu'elle a été évaluée.
Très bien. On se retrouve juste après sur Radio Campus Paris, John Smith, lycéenne. À l'assaut. Nous sommes toujours avec l'ANAMEVA, l'Association Nationale de Médecins Conseil aux Victimes d'Accidents. J'ai rien oublié. Julia, notre chroniqueuse, reprend les points essentiels et nous relance pour la troisième partie du débat.
Oui, alors donc l'ANAMEVA, donc vous êtes une association de médecins experts qui conseillent les gens quand ils ont été accidentés face aux médecins des compagnies d'assurance pour évaluer leurs préjudices à une juste mesure. Hein, qu'ils aient l'indemnité qu'ils méritent. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu plein de choses. On a vu des anecdotes. Enfin, on a justifié surtout l'intérêt de votre association et de votre combat pour la juste mesure des indemnités.
Et du contradictoire, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui vous défend contre des médecins qui ont tous les mêmes intérêts. Ce qui était important aussi...
Et les mêmes compétences.
Armes égales.
On a vu, docteur Nagère, pourquoi devenir médecin expert. Donc c'était donc dans votre expérience face à une injustice qui était d'ordre médical, sur la réparation. Vous êtes plus, quand vous êtes dans l'exercice de la médecine conseil, médecin ou expert ? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes plus avocat, médecin ?
On n'est pas là pour soigner, bien évidemment, les personnes que l'on voit. On est là pour les évaluer d'une façon, on va dire, objective, neutre. on est technicien. On n'en reste pas moins médecin, c'est-à-dire avec notre degré d'humanité et d'empathie vis-à-vis des gens qu'on a devant nous, mais on doit rester tout à fait objectif. On ne doit pas céder à la facilité de surévaluer ou de faire évaluer des choses qui n'existent pas. Donc on est technicien. D'ailleurs, quand les magistrats demandent l'avis d'un expert, ils demandent un avis technique. Les magistrats ont besoin, n'étant pas médecin, d'un technicien. En la matière, ce sont des médecins pour tout ce qui est le dommage corporel, comme ils ont besoin d'architectes quand il y a un problème dans une construction.
Le corps est une machine.
Voilà.
On en revient aux fondamentaux.
Donc, quand je change de casquette, quand je suis médecin conseil de victime ou médecin expert, je préfère le terme de médecin conseil de victime, je ne suis pas là pour les soigner. Je fais appel à mes compétences médicales, c'est-à-dire à ma pratique médicale, mais aussi à mes compétences expertales, juridiques.
Vous avez une formation médico-légale, en fait.
Une formation médico-légale, oui, tout à fait. On doit connaître toute la... pas le droit comme peut le connaître un avocat, mais on doit connaître tous les domaines du droit qui ont attrait à notre spécialité, puisqu'on peut se retrouver dans des situations où on est dans du civil, où on est dans du pénal, où on fait...
administratif aussi.
Administratif, où on est devant des experts missionnés par des commissions spéciales comme la CIVI, qui est une chambre spécialisée, et ainsi de suite. On doit aussi bien connaître la législation du droit du travail, et ainsi de suite. Le droit des assurances, qui est un droit des plus compliqués, que connaissent parfaitement bien nos confrères d'en face, mais on a parfois besoin de s'y plonger un peu plus.
Le docteur Dreyfus, dans son ouvrage dont nous parlerons tout à l'heure, de l'accident à l'indemnisation, écrit que le bon médecin n'est pas forcément bon expert. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Et vice-versa.
Qui veut répondre, docteur Dreyfus ?
L'expertise est un métier tout à fait particulier. Il faut des connaissances juridiques, comme l'a dit le docteur Naudacher. Dans le diplôme de dommages corporels, un tiers du temps est uniquement du droit. Moi, j'ai fait mon doctorat en droit, qui m'a semblé indispensable pour bien connaître le sujet, et ça me semble totalement indispensable.
Vous êtes d'abord juriste avant d'être médecin ?
Je suis d'abord médecin avant d'être juriste, et je revendique du côté médical. Ce qu'il faut bien faire comprendre, c'est que il y a d'abord, en dehors de votre question, une mise au point. Il y a trois sortes de médecins qui interviennent dans une évaluation d'un dommage corporel. Il y a deux médecins conseils et un médecin expert. Le terme de médecin expert est réservé aux médecins experts des tribunaux qui travaillent pour les tribunaux sur des listes spéciales dans chaque cour d'appel et qui, en principe, ne devraient faire que des expertises pour les tribunaux et jamais pour les compagnies, en principe. Et il y a deux médecins conseils qui ne sont pas des médecins experts au point de vue légal, le titre est réservé, médecin conseil de la victime, c'est nous, médecin conseil de la compagnie d'assurance, n'est-ce pas, qui est notre adversaire, vous voyez. Donc là, c'est bien défini. Et je pense qu'il est extrêmement important de comprendre que il semble impossible qu'on soit un jour pour, un jour contre et un jour neutre, vous voyez ? Qu'on soit au-dessus de la mêlée un jour et qu'on ait un dossier similaire après où nous sommes défenseurs de la victime et que 3 mois après ou 8 jours après, on a un autre dossier où on est défenseur des intérêts de la compagnie. Et nous avons lutté absolument depuis des années pour faire que chacun choisisse sa casquette. Vous voulez être quoi ? Défendre des victimes ? Travailler pour les compagnies ou être neutre et être expert des tribunaux pour départager éventuellement. Or, les magistrats l'ont bien compris. Actuellement, à la chancellerie, on a reconnu qu'un médecin expert judiciaire ne devait jamais travailler pour les compagnies d'assurance. Ceci fonctionne très bien dans les grandes villes, Paris, Lyon, Marseille. Bon. Mais imaginez qu'il y a des petites circonscriptions, des petites cours de province, où il y a très peu d'expertise et où il n'y a aucune compétence quelconque. Il y a un médecin dans le département qui connaît quelque chose en expertise. Donc il fait tout. Ce qui est quand même tout à fait anormal.
Donc il est expertise, il est à la fois du côté
un
de
l'assurance. Un jour il est compagnie, un jour il est assurance. Bon, il est briefé par les compagnies alors que les tribunaux ne font pas de briefing pour expliquer le métier aux médecins. Et ça pose des gros problèmes encore actuellement. Donc, mais ça évolue dans le bon sens.
Donc un bon médecin conseil doit être indépendant de la compagnie d'assurance, en tout cas toute la semaine, tout le mois, toute l'année, pas les deux. Mais dans les qualités, si on peut dire intellectuelles et humaines, qu'est-ce qu'un bon médecin conseil ?
Je crois que vous avez employé le mot d'empathie tout à l'heure.
Oui.
J'aime bien la notion d'empathie. C'est-à-dire que, ayant un trajet de vie assez particulier, quand j'avais besoin de quelqu'un, il n'y avait personne. Vous voyez ? Et je me suis dit, quand je pourrais, j'aiderai les autres quand ils auront besoin. Et c'est à l'origine de mon métier. Et je me rends compte que je vois des gens qui arrivent au cabinet, prennent un rendez-vous parce qu'ils ont appris qu'il y avait un médecin, ils arrivent tout désemparés, avec des papiers, des radios, des certificats, des lettres à remplir, des demandes, complètement perdus. Ils doivent sortir une heure après, ou plus, ou moins, avec un grand sourire, en disant « Voilà, il y a quelqu'un qui connaît mon histoire, qui sait ce que je ressens, car on leur explique mieux qu'ils l'expliquent eux-mêmes quels sont leurs troubles, n'est-ce pas ? On leur explique mieux qu'ils ne peuvent l'exprimer eux-mêmes. On leur explique qu'on est à leur disposition, qu'ils peuvent nous téléphoner quand ils veulent, on leur répondra toujours, et que le moindre problème, plutôt que de faire une bêtise, ils nous joignent. Ils sont absolument assistés à ce moment-là, conseillés, et je vous garantis qu'ils sont tout à fait soulagés et qu'ils se portent mieux, je dirais, médicalement. »
On a parlé tout à l'heure donc de la valeur de l'indemnisation d'un corps, d'un préjudice, d'un manque d'autonomie. À combien revient la consultation d'un médecin conseil sur le long terme et sur le court terme ? C'est-à-dire combien se paye une consultation ?
Alors, premier point, c'est extrêmement important parce que évidemment chacun a le droit. Nous n'avons pas de normes fixes. Selon chacun. Chacun peut fixer les honoraires à condition de les afficher dans son cabinet, n'est-ce pas ? Un peu comme un avocat. Il y a peut-être une notoriété, il y a peut-être une compétence, j'en sais rien. Mais il y a des normes qui sont à peu près définies. Mais la chose la plus importante, surtout, c'est que la loi dit que le monsieur qui vous cause un tort doit vous indemniser de tout ce tort. Donc tous les frais que vous avez engagés à cause de cet accident doit être remboursé par la compagnie du responsable. Donc mes honoraires, il y a une note d'honoraires qui est rendue à chaque acte, et le bon avocat les fait rembourser à la victime dans le règlement final de son indemnisation.
D'autant plus que la loi vient de l'officialiser en créant un poste spécifique de préjudice qui s'appelle les frais médicaux, qui comporte les frais d'expertise, d'assistance d'un médecin conseil. Et je crois effectivement qu'il y a aussi une notion qui est commune à tous les médecins, c'est la notion du tact et de la mesure. Et une notion qui là est plus éloignée de la médecine, qui est la notion de la valeur ajoutée. Je ne connais pas un dossier dans mon expérience personnelle où le montant de mes honoraires ait pu être supérieur au montant, au bonus d'indemnisation que j'ai pu obtenir. Et ça se multiplie généralement par des facteurs très importants. Donc je crois qu'il faut toujours être très clair avec les patients. Vous venez me voir parce que vous avez une difficulté dans le règlement d'un dossier, que ce soit au tout début ou en cours de route. Le dossier va se régler de façon financière au final. Moi, je vous apporte une aide technique, je vous apporte ma connaissance, mon temps et mon assistance tout au long de votre procédure. Mes honoraires vont être largement, très largement compensés par la plus-value que va apporter mon intervention. Et qu'on explique ça très clairement aux gens, ils comprennent. Et cerise sur le gâteau, j'allais dire, ils seront de toute façon à la fin indemnisés, remboursés du montant des honoraires. À condition que les honoraires que vous demandez ne soient pas délirants, bien évidemment.
Et de toute façon, vous n'acceptez des dossiers que ceux qui sont défendables et que vous pourrez à terme défendre.
Ça, c'est aussi un principe très important. Il est hors de question d'accepter un dossier, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas défendable ou dont les demandes sont tout à fait déraisonnables par rapport à la réalité du dommage et des préjudices qu'on peut mettre en valeur. C'est particulièrement très important dans le domaine de la responsabilité médicale, où il y a très souvent un problème, dès le départ, qui est un problème de communication, de relation avec le médecin ou le chirurgien qui a été responsable ou pas, mais considéré par la victime supposée comme responsable de l'acte. Très souvent, notre rôle, c'est d'informer et d'expliquer de façon tout à fait neutre et sans être partie prenante qu'il n'y a peut-être finalement pas eu de responsabilité ou de dommage.
Très bien.
C'est le rôle de modérateur qui est bien précisé dans le bouquin.
Je voulais vous poser une avant-dernière question. Vous êtes une association, vous connaissez donc des problèmes, si on peut dire, pas de publicité, mais pour vous faire connaître, qu'est-ce que vous entreprenez ? Comment est-ce que je suppose qu'un bon dossier bien traité, ça participe à votre réputation. Est-ce que l'association a des moyens, en dehors des séminaires, des colloques, de se faire connaître ? Dans 10 ans, par exemple, quels sont, où est-ce que vous imaginez votre association ? Je crois que vous êtes 50 médecins, c'est peu.
C'est peu comparé au nombre de dossiers qui sont chaque année traités en France, et peu comparé au nombre de personnes qui sont effectivement assistées, puisque 90% des dossiers se font sans l'assistance d'un médecin conseil. Alors effectivement, un dossier bien réglé, ça donne une opinion positive, favorable. Ça permet de faire circuler l'information dans les milieux, on va dire, spécialisés.
Hospitalier.
Spécialisés, c'est-à-dire les cabinets d'avocats spécialisés, les associations de victimes aussi. Mais en ce qui concerne la diffusion vers le grand public, là pour le moment, on n'a pas vraiment une audience qui nous permet d'être connus dans le grand public.
Et puis paradoxalement, c'est pas la vocation des gens qui n'ont pas d'accident que de connaître votre association aussi.
Non, mais malheureusement, un accident, par définition, c'est aléatoire et imprévu. Et c'est le mieux est de s'y prendre le plus tôt possible quand malheureusement ça arrive.
Docteur Dreyfus, le mot de la fin ?
Une petite anecdote ?
Encore, on adore.
J'ai eu un jour un avocat qui m'a adressé un dossier, il vient de Toulouse. Il m'a dit, voilà l'expertise qui a eu lieu en judiciaire, qu'est-ce que vous en pensez ? C'était un monsieur qui avait une amputation complète du bras gauche, amputé complètement, il n'y a plus de bras gauche. Je regarde le dossier, l'indemnisation était bonne, l'arrêt de travail était bonne, les souffrances, tout était bien marqué. Mais il manquait un poste qui est l'aide d'une tierce personne pour certains actes de la vie courante. Je téléphone à l'avocat, qui dit « Ah oui, c'est vrai, ça, personne n'y a pensé ». Il fait nommer un nouvel expert qui était à Nice. Et je vais à Nice en expertise. Je vais à Nice en expertise et je suis allé avec une boîte de sardines et une serviette de toilette. Et j'arrive chez l'expert, et je dis, voilà, monsieur l'expert, voilà la situation, ce bonhomme ne peut pas faire de nombreux actes de la vie courante, essayez avec un bras dans le dos d'ouvrir une boîte de conserve, essayez d'ouvrir une bouteille de Badoit, essayez de vous laver la main droite sans avoir la main gauche pour vous frotter, de la savonner, de vous essuyer. Le blessé m'a dit, il ne peut pas se faire un shampoing, car il prend la bouteille, il secoue sur la tête, le temps qu'il la repose, il en a plein les yeux. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. L'expert me dit, mais vous avez parfaitement raison, j'avais deux pages d'actes qu'on ne peut pas faire. J'avais pensé dans l'avion à mettre tout ça. Donc il me dit, bon, très bien, je vous donne une heure par jour, tous les jours, là c'est des chaussures, bon, une heure par jour, j'étais très content.
Il faut tout grouper, il faut faire tout dans
absolument.
La même heure.
Donc c'était très bien. Arrive le médecin de compagnie d'assurance d'une virulence extrême, c'est inadmissible, il y a déjà... Enfin, alors, à ce moment-là, j'ai sorti ma boîte de sardines. Je ne savais pas quel expert j'aurais à faire. Alors, je vais demander à monsieur l'honorable médecin de compagnie d'assurance de prendre la boîte de sardines, de mettre sa main gauche dans le dos, de l'ouvrir comme il peut. Et comme je suis gentil, je lui apporte une serviette pour qu'il puisse s'essuyer et se laver la main avec la seule main droite. Le gars a claqué la porte, il est parti, il avait perdu.
Bah écoutez, on aura compris que des anecdotes de moine à celle de la boîte à sardines, votre association est indispensable. On redonne tous les contacts et les coordonnées essentielles après Matt Zach, Girl in Water sur Radio Campus Paris. Vous écoutez Radio Campus Paris sur le 93.9, c'était Matt Zach, Girl in Water.
À l'Asso, l'émission sur la vie associative, tous les jeudis de 20h30 à 21h30 sur Campus Paris.
Nous rappelons maintenant les contacts internet des deux invités, enfin de l'association de l'ANAMEVA que nous avons reçu ce soir. Donc c'est le www.anameva.com. Nous avions donc en plateau ce soir le docteur Michel Nodacher et le docteur Dreyfus. Vous avez écrit, je crois, enfin j'en suis sûre, deux ouvrages. Il y en a un troisième en préparation sur toutes les anecdotes dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Le moine, la boîte à sardines et plein d'autres. Donc c'est de l'accident à l'indemnisation. Vous allez peut-être nous les présenter rapidement.
Alors il y a deux livres qui sont l'un tout récent, De l'accident à l'indemnisation, qui est un guide pratique à l'usage des victimes d'accidents elles-mêmes, n'est-ce pas ? Donc ceci est important car ça donne tous les techniques pour mieux vous défendre et obtenir ce que vous méritez. Et l'autre livre est Le médecin conseil de blessés, qui est la teneur de l'enseignement que nous faisons à la faculté de médecine Paris 5 pour les médecins qui veulent se spécialiser comme médecin conseil de victimes, tous les deux aux éditions La Cassagne, S-K-E-S-K-A.
Docteur Nodacher, vous avez donc lu ces deux ouvrages pour vous préparer.
Bien évidemment.
Et j'ai une dernière question, on a parlé souvent d'experts et je pense que pour les jeunes que nous sommes experts, on pense directement à la série télévisée. Est-ce que les expériences que vous avez vécues et que vous avez connues depuis le début de votre engagement en tant que médecin conseil, vous imaginez un scénario possible pour une réalisation américaine, pour une fiction? Je pense qu'il y a des fans de séries ici. Docteur Nodacher, un médecin conseil expert à la française en série.
Ah, une excellente idée pour une émission française, oui.
Et vous pensez que ça pourrait nous tenir en haleine des nuits durant et des...
C'est un challenge que vous nous proposez, là.
C'est
un challenge que vous nous proposez.
Donc c'est assez intéressant, je veux dire, d'un point de vue fictif pour rejoindre la réalité et donc faire l'objet d'une série... Un peu d'ambition, on pourrait
oui,
y arriver.
Faut...
Le problème, c'est que si nous intervenons et que nous avons des résultats satisfaisants pour les victimes, c'est... comme vous l'avez compris, au détriment de ceux qui vont payer ces victimes, qui sont les compagnies d'assurance.
On ne les voit pas dans les séries.
Or,
ceux-là, ils sont...
dans une série, qu'est-ce que nous allons raconter ? Un blessé qui aura, on lui aura proposé tant, et il vient nous voir, et il sort avec tant multiplié par 3. Donc ça veut dire qu'ils ont été pas bien traités, vous voyez, et on arrive automatiquement à mettre vraiment les compagnies d'assurance au pied de leurs responsabilités, et ça sera assez mal compris par beaucoup de gens, je pense, car vous savez que les compagnies d'assurance sont ce qu'on appelle des zinzins, les investisseurs institutionnels, qui ont beaucoup d'argent parce que toutes vos primes sont réunies, et qui ont un pouvoir financier énorme. Or, si l'on fait une série qui attaque les compagnies, car en fin de compte, ce sera ça, n'est-ce pas, nos anecdotes, vous voyez, ça risque peut-être d'être un peu court-circuité et bloqué avant même que ça ait vu le jour.
Il faut avoir le courage de remuer les opinions.
Ah, le courage, je l'ai tant que vous voulez, tout seul contre tous, j'y vais.
Oui.
Mais faut-il encore que ça serve à quelque chose.
C'est vrai.
Que ça suive.
Nous avons des émissions tous les jeudis et on en reparlera donc jeudi prochain. Merci à Sylvain à la réalisation. Merci à nos deux invités, Dr Dreyfus, Dr Nodacher, Julia, toujours souriante. Et vous retrouvez Eric la semaine prochaine. Bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.
He was white as a sheet,
and he also made false teeth.
Yeah.